Bonjour à tous, c'est Vu d'ici, le magazine de la rédaction de la Bouinotte. Chaque mois, Vu d'ici vous invite au voyage, à la découverte des ressources des femmes et des hommes de notre région, au fil des publications de la Bouinotte. Pour débuter cette émission, Sébastien de Gors, des éditions de Gors, il vient de rééditer le vocabulaire du Berry d'Hippolyte François Jaubert. Et puis en deuxième partie, on va parler polar avec une double sortie pour Patricia Rapneau. Un polar pour grand, Requiem, et une intrigue tout public, le Parvis des Assassins, où il est fortement question de la cathédrale de Paris. Notre premier invité, Sébastien de Gors, a publié à l'automne dernier le vocabulaire du Berry d'Hippolyte François Jaubert, une réédition attendue et une belle préface de Pascal Pauvrhomme, régional de l'État. Bonjour Sébastien.
Bonjour Gilles.
Alors d'abord les éditions de Gors, une maison d'édition qui a quelques années d'existence mais qui arrive en Berry.
Voilà, alors je l'ai créé en 2016 en Alsace où j'ai dû m'enraciner un petit moment pour raisons familiales. Et puis, je suis revenu dans le Berry en mars dernier. Et puis, j'ai travaillé sur le vocabulaire du Berry déjà avant d'arriver. Donc, je suis de retour dans le Berry, en pleine forme, avec un bouquin qui s'intitule « Vocabulaire du Berry et de quelques cantons voisins ».
Alors, pourquoi ce choix ?
Bah, parce que c'est le livre de chevet de pas mal de gens qui sont dans le régionalisme, dans l'ethnologie, et puis comme les Thiolins, à Lignières, hein, on a Romain Persona qui m'a dit qu'il avait toujours travaillé sur ce bouquin-là. Déjà, c'est un bouquin qui est très riche. Alors, il n'est pas tout à fait complet parce que j'aurais pu publier la toute dernière version qui fait plus de 1000 pages. Mais la version la plus connue, celle qui permet de picorer un petit peu, c'est celle qui a été publiée en 1842 à la librairie encyclopédique Roré. Et je me suis dit, ce serait plutôt sympa de faire un livre qui est proche des gens, en même temps facile à lire. Alors c'est un petit bouquin, j'ai essayé de faire un bouquin assez beau pour un prix, on va dire honnête, 17 euros. Et l'intérêt, c'est donc de redécouvrir des termes donc qui ont été oubliés ou alors qui ont changé avec le temps. Parce que le berrichon est comme toutes les langues, il risque de disparaître à un moment donné, mais aussi il évolue. Donc ça nous a donné l'occasion avec Pascal Pauvrhomme de compléter l'appareillage de notes, qui est déjà très très complet. Il faut savoir qu'un terme berrichon, parfois, est plus près du français classique, et donc du français, on va dire, parfait, littéraire, que certains mots qu'on considère aujourd'hui comme purement français. Hein. Il y a des termes berrichons qui sont plus proches du français originel que certains termes qui constituent en gros des distorsions. Et donc le livre regorge littéralement de citations, de Racine, du roman de La Rose, de François Villon, d'Amadis Jamin, de Rabelais. On découvre vraiment que le Berry a une vraie richesse. On garde toujours cette image du Berry, la Révolution, avec le taux d'illettrisme le plus élevé de France, mais on se rend compte que il y avait des auteurs et que de grands berrichons ont fait de grandes choses, même si Hippolyte François Jaubert a publié son livre sous l'anonymat, parce qu'à l'époque, quand on faisait de la politique, on pouvait, comme aujourd'hui, hein, si jamais on passe plus de temps à ces petites occupations comme faire des livres, on peut se voir reprocher de ne pas donner toute son attention aux affaires publiques.
Est-ce qu'on a une idée de la manière dont il a travaillé à l'époque pour collecter ?
Alors oui, il a il avait des
on est à quelle époque d'ailleurs ?
Des bases documentaires, on est au début du 19e, première moitié du 19e, et Hippolyte François Jaubert étant un homme politique assez bien installé, il connaissait beaucoup de gens, donc il a pu avoir des références documentaires, il est allé dans les fermes du Cher, écouter les paysans, comme l'explique Pascal Pauvrhomme. Et puis, il a glané par courrier, et pour chaque terme, il a vérifié dans différents points du Berry si le terme avait bien une utilisation, s'il était toujours vivant, quelle acception pouvait avoir tel et tel terme. Et comme c'était quelqu'un qui avait une très grande culture littéraire, ça lui permettait donc de s'amuser à rechercher dans Molière ou dans d'autres ouvrages du Moyen-Âge même, ou de l'époque moderne, hein, qui commence au XVIe, au XVIIe siècle. Donc retrouver les termes que les gens utilisent dans les fermes du Berry, dans les grands classiques.
S'il fait du collectage à l'époque, alors aujourd'hui on en connaît la raison, hein, c'est la disparition, la perte effectivement de cette culture. Est-ce que ça veut dire qu'au début du 19e, on sent déjà la menace poindre, oui, à l'égard de ces langues régionales?
Ah bah oui. Bah déjà le premier signal, c'était la création de l'Académie française avec une normalisation du langage à l'échelle de la France. Alors ça a permis de parfaire une langue et d'exporter notre culture, de lui donner son assise politique dans différents pays, et surtout d'organiser tout un collège, et puis de mutualiser les universités, bon, bref, de faire beaucoup de choses. C'est notamment le cardinal Richelieu qui a défendu cette normalisation. Et puis l'évolution des techniques, l'évolution de l'agriculture, l'évolution de l'industrie ont fait que eh bien oui, il y a une concentration, il y a une normalisation, une harmonisation des termes qui fait que les particularismes régionaux ont tendance à devenir un petit peu plus flous, pas forcément à disparaître. Et on se demandait déjà au 19e ce qu'allait devenir donc ce parler berrichon qui représentait vraiment l'âme du peuple. Et puis l'école, tout simplement, hein. Les programmes avaient tendance à se regrouper, donc forcément la langue parlée à l'école, le bon français et la langue parlée à la maison constituaient déjà une opposition.
Combien d'entrées dans le vocabulaire?
Alors ça, je saurais même pas le dire.
À peu près.
Vous
avez gardé combien à peu près de,
ouais,
de,
a,
de,
je, d'ouvrages je, d'origine? Je ne sais pas, je ne pourrais même pas répondre à cette question, vous voyez. Bon, c'est un ouvrage qui fait 170 pages, doit y avoir une vingtaine de termes par page, donc faites le calcul, je suis très mauvais en maths. Alors,
pour enfin, il y a de quoi s'amuser
les règles,
en tout cas.
Les règles d'accord du participe passé, ça je suis très bon, mais alors les maths, c'est même pas la peine.
Donc les termes, vous disiez, il y a une évolution aussi, hein. Comme toute langue, il y a des termes qui ont évolué encore en 200 ans, des termes berrichons qu'on utilise encore parfois.
Ah oui. Alors, je vais prendre un exemple, le verbe arreuiller, qui peut être utilisé de manière normale et en sa version pronominale. Alors on va trouver le terme, enfin, que je retrouve. Alors il y a arreuiller et s'arreuiller, donc forme pronominale, donc être gai, gaillard, bien éveillé. On peut donc se référer aussi au terme d'éreiller, donc ouvrir les yeux tout grands. Donc un enfant qui s'arreuille, ouvrir les yeux, sourire, qui sourit, qui reconnaît, c'est une femelle, donc une femme, qui s'arreuille ben, c'est-à-dire qu'elle a les yeux égrillards. Elle a, dit-on, des yeux à la perdition de son âme.
Alors,
une gaupe. Alors, il y a arreuiller, donc c'est être gai, gaillard, bien éveillé. Alors, bon, on pense un peu à quand on dessille les yeux, vous voyez, ça évoque un peu cette racine-là. Alors, si on regarde bien à arreuiller avec un S, donc la forme pronominale, s'arreuiller, j'ai créé une note, donc note de l'éditeur, où j'explique, la forme pronominale s'arreuiller peut signifier, dans le parler berrichon qui a cours de nos jours, s'inquiéter inopportunément, se tourmenter. Et là, j'ai fait une citation de ma mère, qui a cassé un plat un dimanche. Ils se faisons au bain, ils s'enfoncent au bain pour rien tout à l'heure, c'est toujours qu'une assiette de cassé, pas la peine de s'arreuiller comme ça.
Voilà, c'est encore mieux avec l'exemple, effectivement.
Voilà. Ouais. Donc c'est pas la peine de s'inquiéter, s'arreuiller, c'est s'inquiéter inopportunément.
Qui n'a pas bougé finalement, bouinotte, trou ou petit passage de forme ronde, petite fenêtre.
Voilà.
La bouinotte figure bien sûr en bonne place. Parmi les termes qui sont toujours un petit peu utilisés aujourd'hui, on retrouve le fameux tason, dont il n'y a pas vraiment d'évolution non plus. Je regarde cette synonyme de lambin ou lambine, celui ou celle qui, par tempérament ou occasionnellement, agit avec lenteur ou mollesse et se fait attendre. C'est quand même un florilège assez délicieux à lire. Il y a plein de...
Il y a plein de choses qui pourraient être a priori pris comme des insultes, hein, parfois, hein, c'est très un vocabulaire fleuri, parfois rustre, mais avec beaucoup de poésie, parce que le paysan du Berry donne beaucoup de surnoms, par exemple, et c'est toujours en bonne part. Il y a beaucoup beaucoup de tendresse et beaucoup d'intelligence, en fait, dans les termes.
Alors, 3 400 entrées, me souffle Damien, qui est en technique, qui a fait le calcul, tout de même.
Eh bien, merci, merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup. Alors, c'est à la louche, hein, c'est à la louche. Il y a des pages où il y en a plus, des pages où il y en a moins, parce que je vous l'ai dit, les notes de bas de page prennent une certaine place, donc plus le terme est référencé et expliqué, moins il y a de mots sur la page.
Et puis, des mots aussi qui n'ont pas forcément leur équivalent en français. Ça aussi, c'est symptomatique d'une sorte de civilisation.
Comme bronzillé dans ses habits. Je sais pas sûr, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose en forêt en français.
L'équivalent français, oui. Ouais. On reprend le tason d'ailleurs, ou la tazone, c'est la même chose, oui, effectivement. Mmh. Voilà, donc de quoi s'amuser beaucoup, de quoi apprendre énormément aussi avec ce vocabulaire du Berry. Merci Sébastien de Gorce.
Merci
donc,
de m'avoir reçu.
On retrouve le vocabulaire du Berry aux éditions de Gorce dans toutes les bonnes librairies berrichonnes et ailleurs, bien sûr. Baby, I'm home, I'm home. Vous êtes sur RCF en Berry, vous écoutez Vue d'ici, le magazine de la rédaction de La Bouinotte. Un instant, il est G. Home. Patricia Rappeneau, auteur de Polar Bourguignonne, fait son entrée dans la collection Blackberry de La Bouinotte, Requiem, qui met en scène son personnage fétiche, le privé Nathan Malocène, et Le Parvis des Assassins, un polar tout public. Bonjour Patricia.
Bonjour Gilles, je vous remercie, je suis ravie d'être avec vous ce matin.
Alors, Ce ne sont pas vos premiers livres, mais c'est votre première interview radio, je crois.
Donc, oui, ça voilà, donc, mais bon, ça va bien se passer, paraît-il.
Voilà, ça va bien se passer, c'est une première en tout cas. Merci d'être là pour présenter ces tout nouveaux livres qui sont sortis en même temps, à l'occasion il y a quelques jours, du Salon du Polar de Vierzon. Alors, Requiem, parlez-nous de ce personnage, Nathan Malocène, qui a déjà traversé plusieurs de vos romans.
Alors, Nathan Malocène est un détective privé qui, avant d'être détective, était un militaire. Cet ancien métier lui a permis d'envisager son avenir d'une façon tout à fait différente en appliquant les valeurs que l'armée lui enseigne. C'est un personnage plutôt atypique qui est versé dans les sentiments et qui aime les opérations musclées. Au cours de cette première enquête, grande enquête, il sera confronté au double meurtre des parents de celle qui sera ensuite sa compagne. Et les investigations vont le plonger dans le passé trouble de son associé, sans pour autant qu'il se ferme des portes, puisque à cette occasion, il découvrira des choses incroyables, mystérieuses et énigmatiques concernant son associé.
Oui, donc une histoire qui mêle beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'une part d'intimité entre ses proches, des associés qui sont concernés par cette enquête. Ce personnage, Nathan Malocène, et le fait d'ailleurs d'écrire du polar, d'où est-ce que ça vous vient? Vous êtes vous-même issu du milieu?
Pas du tout. Je suis lectrice avant tout lectrice donc de polar, surtout. Ce que j'aime dans le polar, c'est justement le fait qu'il ne ferme aucune porte concernant les gens.
Donc juste, vous allez me reparler un peu de ce personnage, Nathan Malocène. Comment vous l'avez imaginé finalement, ce personnage, Nathan Malocène? C'était une envie de lectrice à l'origine?
Oui, c'était une envie de lectrice. Oui, ça partait d'une envie de lectrice. Et le fait qu'il n'y ait pas forcément très souvent de détectives privés dans le monde du polar, puisqu'on est souvent confronté à des équipes plutôt classiques avec des groupes de PJ. J'avais envie de marquer un petit peu mon empreinte, de marquer le pas avec un détective privé. Voilà.
Vous avez travaillé comment? Vous êtes renseigné, vous êtes documenté sur ce travail un petit peu spécifique et pas forcément très connu des privés?
Oui, j'avais dans mon entourage il y a quelques années un détective privé qui n'était pas forcément porté seulement sur les enquêtes concernant les voisinages et puis les liaisons, les trahisons des uns et des autres, donc qui m'a donné vraiment envie de développer ce côté un petit peu particulier de ce métier. Les enquêtes au service finalement de la justice et puis des autres équipes en parallèle qui sont mises en parallèle de façon plus classique.
Oui, Nathan Malocène s'occupe plus d'enquêtes criminelles, hein. C'est plus sa spécialité effectivement. Oui. Mmh. Avec le décor qui est celui de votre région aussi, la Bourgogne.
La région, oui, la région Bourgogne, la région dijonnaise en particulier. Parce qu'il fallait bien le mettre quelque part. Alors Malocène, je vais revenir un petit peu sur le nom de Malocène, puisqu'on me pose souvent la question.
Ah oui, est-ce qu'il y a une référence?
C'est une référence, donc, non pas seulement à Pénac, y a un personnage qui s'appelle Malocène aussi, mais à la région la région plus au sud, au pied du Mont Ventoux, il y a un petit village, le village de Malocène, que l'on voit souvent à l'occasion du Tour de France. Et là-bas, j'y ai quelques attaches. Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil à la famille.
Avec un personnage qui a un petit fan club aujourd'hui. Hein. Vos lecteurs vous suivent avec passion. Ils attendaient apparemment impatiemment cette nouvelle sortie d'ailleurs.
Oui. Je les remercie de cette fidélité qui m'accompagne depuis le début. Oui.
Alors,
avec impatience. Oui.
Alors, Le Parvis des Assassins, c'est l'autre livre que vous sortez à cette même occasion. Il est sorti en même temps, toujours aux éditions La Bouinotte.
Oui.
Un polar tout public, cette fois. Un polar historique.
Oui.
Donc, on change d'époque, on change de public aussi. Vous aviez envie de vous adresser à un plus jeune public, là, parce que à peu près à partir de 12 ans, hein, pour l'âge.
Oui, à partir de 12 ans, oui. Je voulais mettre en avant, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice en espérant que ce roman puisse donner le goût de la lecture aux plus jeunes. Et il fallait que je trouve non pas seulement une enquête à leur proposer, mais un fait historique à mêler à l'intrigue pour que ce soit un petit peu plus musclé et que cela corresponde un petit peu plus à leurs attentes de jeunes enfants, enfin de jeunes adolescents qui aiment les choses un peu plus vives.
Alors là, c'est un adolescent qui va, oui. enfin un enfant, un garçon qui va devoir prouver oui. l'innocence
de son père.
De son père.
Accusé de meurtre, oui. Le roman se situe en 1306, nous sommes à l'époque de Philippe le Bel, et c'est quelque temps avant la fin des Templiers, de l'ordre des Templiers, qui sont, comme nous le savons tous, exterminés sur le bûcher quelques années plus tard.
Et on est à l'époque de la construction, qui dure longtemps, hein, qui n'est pas achevée, de la cathédrale Notre-Dame de Paris également.
Oui. La cathédrale a été... on a posé la première pierre de la cathédrale en 1163, pardon, et sa construction s'est achevée en 1350 et des poussières. Et au cours de cette période, la cathédrale a subi évidemment de nombreuses transformations, et c'est au suite une de ces transformations une nouvelle approche de la cathédrale a été mise en place, et j'ai surfé un petit détail concernant la part architecturale de la construction de Notre-Dame pour poser l'intrigue et permettre à mes adolescents de mener l'enquête aussi bien d'un point de vue architectural mais d'un point de vue social, puisque j'ai vu également la construction, enfin la mise en place des premières communes. Je parle de communes en tant que municipalité, dont celle de Paris, qui depuis ce temps-là a une structure et un statut.
Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses dans votre roman. C'est l'un des intérêts aussi de ces romans pour les jeunes, c'est de se plonger dans cette époque, dans ce contexte, et puis de prendre de nouvelles informations. Est-ce que l'incendie de Notre-Dame l'année dernière a motivé l'ébauche, l'écriture de ce roman, en tout cas le fait de le planter à cet endroit-là et d'en faire un fond?
Non, parce que je m'étais déjà plongée dans les recherches bien avant l'incendie de la cathédrale, et le parvis des assassins était quasiment écrit au moment de l'incendie. Ceci dit, ça m'a confortée dans l'idée que la cathédrale était un bel univers, un beau milieu pour planter le décor d'une intrigue. Voilà.
Alors, ces deux romans vont débuter leur vie tranquillement. On va vous retrouver très prochainement dans différents salons. Il y a quelques rendez-vous déjà que l'on peut noter avec vous?
Oui, alors le Salon du Livre d'Autun, qui est dans ma région, et puis celui de Lens. Mais bon, pour le moment, avec les événements du corona, c'est pas évident qu'il se tiendra encore. Puis, tout au long de la saison, j'ai quelques rendez-vous, bien évidemment, chez les libraires. En mai, il y a le Salon Textébule dans le Jura, qui est un grand rendez-vous qui s'adresse aussi bien à la BD, mais au roman policier, avec une ouverture sur le jeune public, ce qui est intéressant dans le cas du parvis des assassins. Puis j'irai dans les petits pays qui m'accueilleront.
Donc pas mal de rendez-vous et pour vous cette année, et puis on verra. Hein, donc pour ce grand salon du Polar à Lens, hein, qui est un très très beau rendez-vous, un des rendez-vous principaux concernant le polar dans notre pays. Bien, merci Patricia. Je rappelle les titres de vos livres, c'est Requiem dans la collection Blackberry aux éditions La Bouinotte, et puis Le Parvis des Assassins, un polar historique dès 12 ans, toujours aux éditions La Bouinotte.
Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légume, moitié mec. J'avais plus un copec. Du jour. jour où je me suis mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job à la feuille de chou, à scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marie-Lou, qui me traînait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou.
Vu d'ici, le magazine de la rédaction de la Bouinotte, à l'instant, l'homme à la tête de chou de Gainsbourg par Bachung. Vu d'ici, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie nos invités Sébastien Degors et Patricia Rapneau, à la réalisation Damien Durie. Salut à toutes et à tous.